Zone de Contact, une émission de Spoutnik Afrique.
Bonjour Bamako, bienvenue sur Spoutnik Afrique. Ce soir, c'est Anthony Lefebvre et l'émission Zone de Contact qui vous accompagne. Ravi de retrouver les auditeurs et les auditrices de Maliba FM à Bamako sur le 99.5 FM. Et tout de suite, voici le programme de notre émission d'aujourd'hui. 4 pays africains adhèrent à l'initiative pour l'accès des États du Sahel à l'océan Atlantique, Washington qui n'accepterait pas que l'Ukraine mette fin au conflit, et une vingtaine de terroristes neutralisés dans l'ouest du Niger. Quelles sont les perspectives de la coopération de Bangui avec la Russie et d'autres pays des BRICS? La ministre centrafricaine des Affaires étrangères a fait le point dans un entretien exclusif. L'intelligence artificielle est-elle dangereuse? Qu'attend Addis Abeba de son adhésion aux BRICS? Le ministre éthiopien de l'innovation et de la technologie répond aux questions de Spoutnik Afrique. Après la reconnaissance par l'ONU des autorités de Niamey, c'est Patrice Talon qui souhaite normaliser ses relations avec le Niger. Un chroniqueur béninois réagira aux récentes déclarations du président de son pays. Un chercheur burkinabé figure dans le top 10 des personnalités scientifiques de l'année 2023. À notre micro, il présentera son travail sur le développement des vaccins contre le paludisme. Le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad adhèrent à l'initiative internationale pour favoriser l'accès des États du Sahel à l'océan Atlantique. Le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, en a fait l'annonce à l'issue d'une réunion à Marrakech qu'il a organisée avec les ministres de ces 4 pays du Sahel. Ils ont souligné l'importance stratégique de cette initiative qui offre de grandes opportunités pour la transformation économique de l'ensemble de la région. Elle contribuera à l'accélération de la connectivité régionale et des flux commerciaux, ainsi qu'à la prospérité partagée dans la région du Sahel. Les ministres ont convenu de créer une task force nationale dans chaque pays pour préparer les modalités d'opérationnalisation de ce projet. Pour rappel, le 6 novembre dernier, le roi du Maroc, Mohamed VI, avait proposé de lancer une initiative internationale afin de favoriser l'accès des pays du Sahel à l'océan Atlantique. Le président américain Joe Biden ne permettrait pas à son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky de capituler. Selon l'ex-premier ministre ukrainien Nikolai Azarov, cela nuirait à la carrière politique de l'actuel locataire de la Maison-Blanche. Ces déclarations sont à mettre dans le contexte de récentes affirmations de Zelensky, qui s'était inquiété lors d'une conférence de presse le 19 décembre dernier du financement de l'armée ukrainienne par Washington après la prochaine présidentielle américaine de novembre 2024. Selon M. Zelensky, si l'ex-président américain Donald Trump revenait à la Maison-Blanche, la politique des États-Unis deviendrait plus frugale et se concentrerait sur les problèmes intérieurs. Car oui, l'inquiétude est de mise du côté ukrainien. Le Washington Post a rapporté que l'intérêt du Congrès américain pour le financement de Kiev était plus faible que jamais. Toujours selon ce journal, la concurrence croissante d'autres priorités de sécurité nationale, y compris Israël et les problèmes à la frontière sud des USA, pourrait présager la fin de l'aide américaine à l'Ukraine. Pour rappel, Moscou a indiqué à plusieurs reprises qu'elle était prête à négocier, mais Kiev a voté une loi pour interdire tout pourparler en ce sens. Le 23 décembre dernier, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré au New York Times que Vladimir Poutine était prêt aux discussions sur l'Ukraine, mais uniquement pour atteindre les objectifs de l'opération militaire spéciale. L'armée de l'air nigérienne a annoncé dans son bulletin d'information le 23 décembre avoir tué une vingtaine de terroristes lors de frappes aériennes réussies et détruit une quantité importante de leur logistique. Selon l'armée, c'est la surveillance permanente de l'espace aérien qui a permis d'observer des regroupements de terroristes dans 2 zones du territoire nigérien. Tout d'abord dans la localité de Bishnanan, située dans l'ouest du pays, ainsi que sur la frontière avec le Burkina Faso. Pour rappel, l'armée nigérienne avait déjà enregistré récemment une autre victoire importante face au groupe terroriste. Le 20 décembre dernier, elle avait fait état de plus de 40 terroristes neutralisés et d'une dizaine d'autres blessés par l'aviation dans les secteurs de Goni et de Kokolo, situés également dans l'ouest du pays. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que vous écoutez Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM, 99.5 FM à Bamako. Bienvenue si vous venez tout juste de nous rejoindre. La République centrafricaine est ouverte à la coopération avec les pays des BRICS. Bangui coopère déjà avec le groupe des 5, composé du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud dans de nombreux domaines. Le futur siège des BRICS en Afrique centrale doit prochainement voir le jour dans le pays. Avec la Russie, ce partenariat s'est concrétisé ces derniers jours avec l'arrivée d'une cargaison de céréales livrée à titre gratuit à la RCA par la Russie. Nous avions développé ce sujet avec le ministre centrafricain de l'Agriculture et du Développement Rural dans une précédente émission. La livraison du blé faisait suite à une promesse de Vladimir Poutine à l'occasion du sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg. En exclusivité pour Spoutnik Afrique, Sylvie Bapo-Témon, ministre des Affaires étrangères de la RCA, s'est exprimée sur ces thématiques. Écoutons-la tout de suite. Le président Touadéra est le facilitateur désigné par la CEEAC pour le Gabon. Quel progrès y a-t-il dans la résolution de la crise au Gabon ?
La communauté économique des États d'Afrique centrale a désigné son excellence professeur Faustin Archange Touadéra comme facilitateur pour la CEEAC auprès de la crise gabonaise. Et en l'occurrence, son excellence monsieur le président Touadéra s'est rendu à plusieurs reprises en terre gabonaise pour s'entretenir avec les autorités en place, mais également avec un certain nombre de personnalités afin de mieux comprendre la situation est d'accompagner justement le Gabon à une sortie de crise. Et ben, quelles sont les évolutions ? Il s'est tenu récemment un sommet des chefs d'État au cours de laquelle le président Touadéra a exposé pour examen le rapport à mes parcours de sa facilitation. Et lors de cette consultation, cette conférence extraordinaire des chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, il a été félicité pour les actions qui ont été menées. Et vous savez que dans le cadre de cette de ce qui s'est passé en août dernier au Gabon, il y a eu la suspension de la République gabonaise au sein de notre communauté, parce que c'est une règle juridique qui s'applique en cas de tout mouvement anticonstitutionnel. Donc le Gabon a eu cette sanction. Il y a eu d'autres sanctions qui ont été mises en place, notamment là avec par ricochet la délocalisation du siège, et justement le sujet était à l'ordre du jour, donc de manière à ce que on voit comment les choses évoluent. Et la partie gabonaise, en tout cas les autorités gabonaises, ont présenté justement leur processus de transition et de sortie de crise qui se tient sur 18 mois, avec la nécessité de la tenue d'un dialogue inter-gabonais pour parler de la cause gabonaise et trouver justement un consensus sur lequel ils vont pouvoir avancer et sortir de cette crise. Ce qui est important dans cette crise gabonaise, c'est qu'il faut retenir que oui, il y a eu un coup d'État, mais il n'y a pas eu d'effusion de sang. Et donc, nous avons constaté dans le cadre de cette facilitation et dans le rapport que le président Touadéra a soumis à l'examen de ses pairs, qu'il y avait quand même une quiétude qui restait. Et surtout que cette crise est née surtout de textes qui nécessitent d'être remis à plat, donc notamment la Constitution, mais également le Code électoral. Et c'est sur quoi les autorités gabonaises en place se sont engagées avec, dans le cadre d'une discussion, d'un dialogue, d'une conférence, vous appellerez ça comme vous le souhaitez, mais dans le cadre d'une conférence inter-gabonais, où les Gabonais vont se parler des sujets importants pour eux. Donc les choses avancent, et la communauté des États de l'Afrique centrale, la CEEAC, suit, et le facilitateur suit et est présent auprès des autorités pour les accompagner dans cette sortie de crise.
Et pourquoi les sanctions de la CEEAC envers le Gabon ne sont pas assez dures comme celles imposées par la CEDEAO au Niger ? Et quelle est votre lecture de la situation en Afrique de l'Ouest ?
Vous savez que nous avons en Afrique en général eu un certain nombre de mouvements anticonstitutionnels, mais ce qui est important, c'est de ne pas généraliser les choses, mais de prendre les choses cas par cas. Chaque cas, même si c'est un coup d'État, en effet, mais chaque cas est différent. Et c'est pour ça que c'est surtout dans l'approche qu'il faut arriver à être, à marquer une solidarité. Parce que quand dans un pays, les choses vont mal, ça veut dire qu'il y a un souci. Et notre devoir, hein, en tant que partenaire, en tant que pays frère, pays ami ou appartenant à une même communauté, c'est d'aller au chevet de ce pays et comprendre ce qui se passe. C'est ce que nous avons fait en ce qui concerne la République gabonaise, en ce qui concerne en tout cas notre communauté des États de l'Afrique centrale. C'est ce que également au niveau de l'Afrique de l'Ouest, elles ont fait avec des sanctions que vous jugez plus dures, mais la sanction commune a été de toute façon d'extruire, de suspendre les pays qui ont été auteurs de coup d'État de leur structure. Ensuite, il y a eu, dans le cadre de la différence avec l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, c'est qu'il y a eu des sanctions économiques qui, d'ailleurs, parce que les sanctions ne sont pas forcément une solution, et nous avons vu que ces sanctions économiques n'ont pas eu les résultats escomptés, et ce qui est important, je pense, pour éviter justement qu'il y ait des interprétations par vous, notamment les journalistes, du deux poids deux mesures ou des procédures qui sont diverses, c'est que d'un point de vue juridique, la sanction unanime et harmonieuse de tous, c'est de dire, nous suspendons parce que nous avons les textes qui régissent nos communautés et qu'un État qui a fait l'objet d'un coup d'État ne peut plus venir avoir droit de vote ou avoir droit de décision dans notre communauté parce qu'il faut qu'il revienne à l'ordre constitutionnel qui lui permet d'être totalement légitime au sein de notre communauté. Donc certes, il y a des sanctions plus dures et ça, si je peux me permettre, c'est d'appeler justement à avoir une approche qui soit une approche beaucoup plus cohérente et une approche qui soit plutôt d'être en appui ces pays parce que aucun pays n'est à l'abri de mouvements. La République centrafricaine aussi a eu beaucoup de soubresauts et de ce fait, je peux vous dire qu'il est important de savoir que nous avons des pays frères, des pays amis qui sont là en soutien. Et ces sanctions, il doit y avoir, il faut que ces sanctions soient mesurées et soient unanimes à l'ensemble, réfléchies au cas par cas. Et non pas pour, il faut surtout pas aussi associer individualiser les choses parce qu'un État reste un État. Et notre devoir en tant que communauté, c'est de soutenir nos États membres parce que chacun de ces États, que ce soit le Niger ou le Gabon, appartiennent et restent malgré leur suspension parce qu'il s'agit bien d'une suspension, mais ils n'ont pas été rejetés. Donc cette suspension doit rester de l'ordre de la suspension, de manière à ce qu'on puisse trouver des solutions pour raccorder les choses, en tout cas pour aider les peuples frères et les pays frères.
La Russie s'est dite prête à approvisionner 6 pays africains, dont la RCA en céréales, directement à titre gratuit. Le premier lot est déjà arrivé au port de Douala. Est-ce que Bangui attend cette aide? Et si oui, comment cela va-t-il être partagé pour le bien-être de la population?
Oui, nous avons lors du sommet des BRICS, eu cette bonne nouvelle que la République centrafricaine faisait partie des 6 pays qui ont été désignés par la Fédération de la Russie pour être bénéficiaires de ce don en céréales. C'est aussi une occasion renouvelée d'exprimer à nouveau les remerciements au président russe, son excellence Vladimir Poutine, et au peuple également russe pour cet appui. Une aide est une aide, nous ne disons pas non. Nous sommes dans le cadre des procédures pour pouvoir justement acquérir cela. Le premier lot est arrivé à Douala. Maintenant, le ministère de l'Agriculture est en charge de faire le suivi de tout cela. Et je sais que les choses avancent. La quantité est assez importante. Donc, il nous faut prendre des mesures. Vous savez que nous sommes un pays enclavé. Nous dépendons également des voies routières et de toute la partie en ce qui concerne les livraisons de choses en masse du Cameroun, donc nous avons un certain nombre de démarches à opérer avec la partie camerounaise. Les choses sont en cours de manière à ce que les bénéficiaires de ce don puissent y avoir accès très rapidement. Je ne pourrai pas rentrer dans les détails parce qu'il s'agit encore des discussions qui sont en cours, des procédures que le ministre de l'Agriculture est en train de mener. Je sais que les choses vont bon train, donc vous aurez des nouvelles assez fraîches très très prochainement.
Et aussi, prévoyez-vous d'autres demandes de ce genre pour la population qui traverse des moments difficiles?
Moi, en tant que ministre des Affaires étrangères, je dirais qu'il nous faut sortir de l'aide. Il nous faut rentrer dans un cadre de coopération économique gagnant-gagnant, dans lequel la République centrafricaine a des atouts, des potentialités à proposer à la Fédération de la Russie, et pour lequel, en contrepartie, la Fédération de la Russie a aussi des atouts, des compétences, des expertises, un certain nombre de domaines dont elle pourrait faire bénéficier la République centrafricaine. Aujourd'hui, et je pense que le nombre d'années et d'expérience de la République centrafricaine montre bien que ce qui est important pour la République centrafricaine aujourd'hui, c'est de développer des vrais partenariats économiques avec une vraie exploitation de ses richesses, de ses ressources, pour que, au sein du territoire centrafricain, l'ensemble de la population puisse bénéficier. Nous avons besoin d'expertise, d'investisseurs russes ou d'autres sur le territoire centrafricain pour venir former, donner de l'emploi, créer des emplois pour faire profiter au peuple centrafricain, aux centrafricains et aux centrafricaines de la création justement de la richesse et de l'exploitation de la promotion des ressources centrafricaines. Et c'est en cela que je fais appel à la Fédération de la Russie pour venir nous faire bénéficier dans le domaine des BTP, dans les domaines des infrastructures, dans les domaines que ce soit minier, dans le domaine de l'éducation, dans les domaines technologiques, voilà, nous sommes un pays qui a beaucoup de choses à offrir à nos partenaires, et chaque partenaire, dont la Fédération de la Russie, a aussi beaucoup de choses à offrir. La Russie est en partenariat avec d'autres pays. La République centrafricaine étant un partenaire fidèle de la République de la Fédération de la Russie, un ami de la Fédération de la Russie, elle est disposée donc à approfondir justement ce partenariat économique et à élargir au-delà de ce partenariat sécuritaire justement dans un domaine beaucoup plus économique pour asseoir justement la stabilité en République centrafricaine.
On signale que le président Touadéra négocie un accord avec une société privée américaine, Bancroft. Plusieurs rapports suggèrent que des représentants de cette société sont déjà sur le sol centrafricain. Est-ce que cette information est vraie ?
Sur cette information, c'est une information que vous me donnez, moi je ne suis pas au fait d'un quelconque accord qui a été signé par la société que je ne connais même pas. D'ailleurs, tout ce que je sais, et je le sais pour avoir posé la question à l'ambassade américaine, c'est qu'une notification a été faite par les États-Unis d'Amérique au sein du Conseil de sécurité, de manière à pouvoir déployer en terre centrafricaine des armes, des radiocommunications et autres pour un certain nombre d'opérations dans le cadre de des activités qu'ils mènent. Et cela, comme je l'ai dit, j'ai contacté l'ambassade parce que j'ai dénoncé cela, la partie centrafricaine, le gouvernement centrafricain n'avait pas été mis au fait. Donc c'est encore une fois de dire le deux poids deux mesures du Conseil de sécurité. C'est que normalement c'est l'État qui sollicite en fonction de ses besoins. Ce n'est pas les autres États qui décident de ce qu'ils doivent envoyer. Et après on va nous dire que voilà, on envoie des armes, on fait des choses. La République centrafricaine est un État souverain. On doit travailler avec. Il faut accepter de travailler avec elle. En tout cas, quand il faut travailler en terre centrafricaine, il faut accepter de travailler avec elle.
Mais donc, comment se passe cette coopération militaire avec l'Amérique actuellement ?
Aujourd'hui, on a une coopération avec les États-Unis. On a une ambassade ici. Nous avons un certain nombre de points. Nous avons AFRICOM, sur lesquels nous avons un certain nombre de rencontres. Mais aujourd'hui, moi, à ma connaissance, il n'y a pas eu de proposition concrète de la partie américaine sur l'élargissement, le renforcement d'une coopération sécuritaire entre la République centrafricaine et les États-Unis d'Amérique. Donc, je ne suis pas au fait, et comme je vous l'ai dit, d'où la surprise du gouvernement centrafricain et la demande de d'explication par rapport à cette notification qui est arrivée au Conseil de sécurité sans que le gouvernement centrafricain en soit informé. Donc, on souhaiterait savoir le pourquoi, parce que, comme vous l'avez dit, nous avons un certain nombre de partenariats, et contrairement à ce que l'on dit, ces partenariats ont été totalement transparents. Quand les deux ministres de la Défense ont signé l'accord de coopération sécuritaire, la RCA et la Russie, ça n'a pas été fait dans un coin seul, ça a été fait devant la presse, ça a été communiqué. Tout le monde a été informé. Quand il y a des déplacements qui sont faits de part et d'autre en terre centrafricaine ou en terre russe, c'est fait de manière totalement transparente. Donc il faut que les choses soient également faites. Nous sommes ouverts à tout partenariat avec tout pays qui souhaite aider la République centrafricaine, et pour cela nous demandons à ce que cela soit fait en toute transparence.
Sachant qu'une cohabitation entre la Russie et les États-Unis ne serait pas facile, Bangui subit-elle des pressions pour rompre sa coopération avec Moscou ? Et aussi, pouvez-vous confirmer l'information de Radio France Internationale selon laquelle le président Macron aurait demandé l'expulsion des instructeurs russes en Centrafrique ?
Comme tout pays, nous subissons, oui, des pressions. Mais la République centrafricaine est un pays souverain, libre de choisir ses amis. Et surtout qu'il faut revoir l'histoire de la République centrafricaine. Nous ne pouvons pas condamner. Aujourd'hui, chaque pays a sa part de responsabilité dans la crise centrafricaine. Parce que nous avons demandé de l'aide à ces différents pays. Ils n'ont pas su répondre présent au moment où nous avions besoin. Nous avons trouvé d'autres solutions qui, aujourd'hui, fonctionnent. Parce que je peux vous dire que depuis 2021, la République centrafricaine se porte mieux. Elle est dans une trajectoire plutôt stable. Il y a des défis. Oui, comme tout pays a des défis. Je peux même aller plus loin. Il y a des pays qui ne sont pas déclarés dans une situation rouge sécuritaire, mais qui sont dans une situation pire que la République centrafricaine, en termes de sécurité. Mais ça, on n'en parle pas. La République centrafricaine est devenue un peu le bouc émissaire du sujet. Tout simplement, il faut que le peuple sache que le pays est un pays convoité. Mais notre bataille est de faire en sorte que les intérêts de la République centrafricaine bénéficient en premier lieu au peuple centrafricain. Donc c'est une pression légitime pour les autres, parce que la mondialisation fait que cela, mais c'est une pression qu'il nous faut assumer et sur lequel notre position reste constante depuis le début. Nous voulons divertir nos partenariats et nous sommes ouverts aux partenaires qui sont soucieux de la situation, du contexte centrafricain, et qui exprime une volonté de vouloir appuyer la République centrafricaine, pas pour répondre à leurs problèmes, mais pour répondre aux problèmes centrafricains. Le monde est fait d'échanges. Et c'est en ça qu'il y a la notion et la définition du mot partenariat prend tout son sens. Nous sommes des partenaires.
Et sur l'information de RFI, le président Macron aurait demandé le retrait des instructeurs russes.
Moi, je connais un président de la République en Centrafrique, il s'appelle son excellence professeur Faustin Archange Touadéra. Et c'est un président légitime, souverain, et qui est en droit de répondre à la volonté première de son peuple. Donc, que dit le peuple centrafricain?
Hier, la RCA a voté en faveur de la résolution russe à l'ONU contre la glorification du nazisme. Pourriez-vous nous dire quelques mots là-dessus?
Écoutez, c'est très naturellement que la République centrafricaine a voté pour cette résolution, parce que, je l'ai dit encore une fois, le monde va mal. Nous avons encore ce racisme qui était latent, qui est en train de venir, d'éclater davantage. Le nazisme a fait beaucoup de dégâts. Vous savez que la Seconde Guerre mondiale a été basée sur le nazisme, justement. Donc, nous devons défendre, en tout cas nous opposer à la recrudescence de ce phénomène, parce qu'il n'est pas bon pour le monde. Nous, en tant qu'Africains, nous savons ce que c'est d'être souillé du fait de son genre, de son type africain. Nous l'avons connu, l'esclavage, nous l'avons connu, la traite, nous avons connu la colonisation, trois grands phénomènes mondiaux qui ont détruit l'Afrique de manière très profonde. Nous comprenons et nous sommes solidaires justement d'autres pays. D'ailleurs, la République africaine a été aussi aux côtés de la République française pour l'aider dans cette phase de nazisme qui a vu la France être colonisée par l'Allemagne dans ce fait-là. Donc nous restons constants dans notre position. Nous sommes constants et c'est très naturellement que nous avons voté pour cette résolution qui combat le nazisme. Donc voilà, nous faisons notre part aussi dans le monde malgré nos difficultés, malgré nos défis nombreux. Nous faisons aussi, nous répondons aussi à notre devoir de ce monde parce que nous sommes un pays qui appartient à l'Organisation des Nations Unies et au monde.
Est-ce que la RCA souhaite rejoindre les BRICS? Et si oui, quelles sont les démarches qui sont déjà en cours pour que la RCA soit membre à part entière des BRICS?
Naturellement. Pourquoi la RCA resterait en marge du monde? Les BRICS aujourd'hui sont au sommet. Et puis, comme disait mon père, quand tu vas à l'école, ne te dis pas d'amitié avec le cancre de la classe, dis-toi d'amitié avec le plus intello, parce que c'est comme ça que tu vas pouvoir évoluer et qui pourra t'aider. Donc naturellement, d'un point de vue d'un pays, il faut se lier avec celui qui est économiquement fort. Nous avons besoin d'être portés, nous avons besoin d'être poussés. Donc il faut être aussi... et ça ne veut pas dire que nous rejetons. Parce que certains pays, vous avez vu que très récemment, des pays comme les Émirats, les Asies ont été intégrés, mais ils sont en partenariat avec d'autres pays, même des pays en interne du BRICS, la Chine, ceux qui sont les membres fondateurs, la Russie, malgré les difficultés. Même si on nous le dit pas, mais les contrats, les partenariats continuent à se faire. La Chine commercialise avec un certain nombre de pays partout dans le monde. Son appartenance au BRICS ne l'oblige pas à commercialiser qu'avec les membres du BRICS, donc. Mais comme il n'y a que les grands ensembles qui subsistent aux grandes fluctuations du monde, c'est important pour la République centrafricaine d'appartenir à un de ces grands ensembles parce que c'est aussi une marque un appui. Vous savez, c'est aussi des pactes. Quand vous faites partie de comme nos communautés, la CEAC, la CIRGL, nous en faisons partie. Donc dès qu'il y a un souci, nous appelons à aller en discuter après avec nos pays frères, les États membres de notre communauté, parce que c'est ceux-là qui viennent en premier soutien. Donc naturellement, oui, la République centrafricaine aimerait être membre du BRICS. Maintenant, il faut garder les pieds sur terre et être réaliste. Est-ce que la République centrafricaine répond, parce qu'il y a un certain nombre de critères aussi au sein des BRICS, est-ce que la République centrafricaine répond à ces critères? À aujourd'hui, non, mais elle va s'atteler à pouvoir justement, et c'est tous les efforts qu'elle mène à aujourd'hui pour pouvoir être un pays sorti de ses cendres, un pays qui soit respecté, un pays qui a du potentiel mais qui doit être exploité, parce que la République africaine économiquement est un pays qui doit être fort. Il n'est pas normal que la République centrafricaine soit aujourd'hui faible. La République africaine a tout le potentiel qu'elle a, devait être parmi les pays économiquement forts.
C'était Sylvie Baipotémon, ministre des Affaires étrangères de la RCA, en exclusivité pour Spoutnik Afrique. Elle est revenue sur l'adhésion de son pays au BRICS, ainsi que sur la coopération avec la Russie. Elle a en outre estimé que la République centrafricaine avait tout le potentiel pour figurer parmi les pays économiquement forts. Mesdames, Messieurs, je vous confirme que vous écoutez Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM, 99.5 FM à Bamako. Bienvenue si vous venez tout juste de nous rejoindre. Addis Abeba a accueilli récemment la commission intergouvernementale russo-éthiopienne pour la coopération économique, scientifique, technique et commerciale. Celle-ci avait pour but de discuter des relations actuelles entre la Russie et l'Éthiopie, ainsi que d'un certain nombre de questions importantes. Une bonne occasion, par ailleurs, de faire le bilan à la veille de l'entrée dans les BRICS de l'Éthiopie en janvier 2024. À l'issue de cette réunion, le docteur Belete Mola, ministre éthiopien de l'innovation et de la technologie, s'est confié à Spoutnik Afrique. Je voudrais profiter de cette opportunité spéciale pour vous présenter notre innovation et notre nouvelle technologie. Les réponses que le ministre a fournies en anglais ont été doublées par une intelligence artificielle. En janvier, l'Éthiopie deviendra membre du groupe des BRICS. Qu'est-ce que cela signifie pour votre pays et quelles sont les possibilités qui s'offrent à l'Éthiopie ?
L'adhésion prochaine de l'Éthiopie aux BRICS est une opportunité importante pour le pays. Nous nous attendons à ce qu'elle renforce le profil international de l'Éthiopie, attire les investissements étrangers et facilite l'accès à de nouveaux marchés. Nous nous attendons également à de nouvelles collaborations avec les autres membres des BRICS dans des domaines tels que le développement d'infrastructures, le transfert de technologies et la formation professionnelle. Les membres des BRICS sont à la pointe des avancées technologiques dans des domaines tels que l'intelligence artificielle, les énergies renouvelables et l'infrastructure numérique. L'Éthiopie peut collaborer à des projets de recherche et de développement en accédant à des technologies de pointe. En outre, il convient de noter que la coopération des BRICS implique souvent des programmes de transfert de connaissances et de développement des compétences. L'Éthiopie peut tirer parti de ces opportunités pour améliorer les compétences de sa main-d'œuvre et se préparer à l'avenir du travail. L'adhésion de l'Éthiopie aux BRICS recèle un immense potentiel pour le développement économique, le progrès technologique et l'influence mondiale du pays. En capitalisant sur les opportunités et en relevant efficacement les défis, l'Éthiopie peut ouvrir un nouveau chapitre de progrès et de prospérité.
En 2021, la Russie et l'Éthiopie ont signé deux protocoles d'accord concernant l'énergie nucléaire. Pouvez-vous nous parler de l'état actuel de la coopération dans ce domaine ?
En 2021, la Russie et l'Éthiopie ont signé deux protocoles d'accord pour collaborer sur les applications pacifiques de l'énergie nucléaire. Ces protocoles visent à mettre en place un programme d'éducation et de formation nucléaire en Éthiopie, ce qui pourrait impliquer la création d'un centre de sciences et de technologies nucléaires. Les protocoles d'accord visaient également à promouvoir la compréhension et l'acceptation de l'énergie nucléaire par le public éthiopien, en répondant aux préoccupations et à la désinformation. Les protocoles d'accord ont jeté les bases d'une coopération future. En juillet 2023, la Russie et l'Éthiopie ont signé une feuille de route pour le développement de la coopération dans le domaine de l'énergie nucléaire pacifique. Cette feuille de route décrit les étapes spécifiques pour étudier la faisabilité de la construction d'une centrale nucléaire en Éthiopie, ainsi que pour établir un centre de sciences et de technologies nucléaires. Les deux pays ont organisé des visites techniques et des séminaires afin d'échanger leurs connaissances et leur expertise en matière de technologie nucléaire. Des groupes de travail spécialisés ont été créés pour discuter sur les aspects techniques de la mise en œuvre des protocoles d'accord.
L'année 2023 a été celle de l'intelligence artificielle qui a pénétré de nombreuses sphères d'activité dans le monde. Vladimir Poutine l'a comparée à la technologie nucléaire civile transformée en arme nucléaire. Pensez-vous que l'intelligence artificielle soit un bien ou un mal ?
La comparaison faite par le président Vladimir Poutine entre l'intelligence artificielle et la technologie nucléaire est une analogie fascinante. L'intelligence artificielle, comme la technologie nucléaire, a des applications à la fois utiles et dangereuses. Ce contraste met en évidence la double nature de l'intelligence artificielle. Elle peut favoriser l'innovation et le développement de l'humanité, tout en présentant des risques considérables si elle est exploitée ou développée sans des considérations éthiques, des règles et des garanties appropriées. Pour maximiser le potentiel positif de l'intelligence artificielle, tout en évitant les menaces qu'elle représente, l'accent doit être mis sur un développement responsable, une utilisation éthique et une gouvernance efficace.
C'était les réponses du docteur Belete Mola, ministre éthiopien de l'innovation et de la technologie. Il a livré à Spoutnik Afrique ses impressions à l'issue de la commission intergouvernementale russo-éthiopienne pour la coopération économique, scientifique, technique et commerciale organisée récemment à Addis Abeba. Et notre intelligence artificielle qui avait doublé ses réponses en français a présenté l'une de ses vertus, celle de favoriser la compréhension entre les peuples. chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, vous écoutez Spoutnik Afrique à Bamako. Bienvenue si vous venez de régler votre poste de radio sur le 99.5 FM. Le président du Bénin, Patrice Talon, a déclaré récemment vouloir rétablir rapidement les relations avec ses pays voisins dirigés par des militaires. Devant les députés, le président béninois a déclaré qu'il attendait de la part de ses pays voisins qu'ils expriment clairement leurs intentions, mais également leurs attentes auprès de la communauté internationale. Parmi les pays dans le viseur du président béninois, il y a bien entendu le Niger, pays frontalier du Bénin. Pour rappel, ces déclarations s'inscrivent dans un contexte de reconnaissance des nouvelles autorités en poste à Niamey par l'ONU. Au micro de Spoutnik Afrique, Modeste Dossou, chroniqueur béninois, a réagi aux récentes déclarations du président béninois, ainsi que sur les tentatives ratées d'isolement du Niger, du Burkina Faso et du Mali. Ayant été très engagé dans l'option militaire évoquée comme possible solution pour rétablir le président Bazoum, le président du Bénin, Patrice Talon, a exprimé ce jeudi sa volonté de normaliser rapidement ses relations avec les pays où les coups d'État sont intervenus, dont en premier lieu le Niger. Pourquoi ce changement de politique du Bénin ?
Alors c'est déjà un véritable revers pour la CEDEAO et ses dirigeants qui étaient pour une action militaire dure, pour la version dure des sanctions contre le Niger, que l'ONU, les États-Unis et certains autres pays décident de continuer à coopérer avec le Niger et de reconnaître les nouvelles autorités du Niger. Et il faut dire que c'est dans cette ligne que se trouve Patrice Talon, c'est dans cette ligne que se trouve Patrice Talon. Je ne pense pas qu'il aurait changé tout de suite de position s'il n'y avait pas ces changements de position au niveau de l'ONU. Et si, surtout au niveau du dernier sommet de la CEDEAO, les chefs d'État ne s'étaient pas rendus compte qu'il fallait nécessairement donner une chance à la transition et laisser tomber la ligne du genre. Il faut une intervention militaire pour déloger les soldats et au pouvoir. Donc je pense que le fait pour l'ONU déjà et les États-Unis et certaines autres puissances de reconnaître la légitimité des chefs d'État est un échec pour ceux qui pensent que le Niger, avec les sanctions et avec la fermeture des frontières et autres, allait être un pays isolé. Et je pense que c'est comme ça. C'est la même chose qui a été faite au niveau du Mali et du Burkina Faso, ça n'a pas marché. Et on a repris la même chose avec le Niger, mais ça n'a toujours pas marché. Il faut se rendre compte à l'évidence. Il faut se rendre à l'évidence que ce n'est plus des sanctions, ce n'est plus ces coups d'État ne sont plus des actes isolés, mais c'est peut-être l'aspiration l'expression d'une certaine aspiration du peuple, parce que les peuples ont soutenu les militaires au pouvoir à chaque fois. Donc il faut se rendre à l'évidence que ce n'est pas forcément une prise de pouvoir pour garder le pouvoir, mais forcément quelque chose qui ne va pas, que ces militaires sont en train de dénoncer.
La légitimité des nouvelles autorités nigériennes est désormais reconnue par l'ONU et même par la CEDEAO qui, il y a encore quelques mois, voulait une intervention militaire contre le Niger. Peut-on dire que les anciennes puissances coloniales, dont tout d'abord la France, n'ont pas réussi à isoler le Niger ainsi que le Mali et le Burkina sur la scène internationale?
Oh, il faut noter que la reconnaissance de cette reconnaissance du coup d'État au Niger, cela fait trois fois déjà, que après des sanctions, après des lignes dures, après des cris et autres, on reconnaît finalement pas des dures sanctions contre des chefs d'État, les chefs d'État de fait de ces pays-là, le Mali, le Burkina et maintenant le Niger. Il faut reconnaître que c'est devenu carrément une tendance. Sauf que, après, ce sont les mêmes sanctions, ce sont les mêmes dispositions qui sont prises pour ces trois pays. Et à chaque fois, ça n'a pas marché. Donc, il faut que la CEDEAO se reprenne. Il faut que la CEDEAO se reprenne et ne suive plus désormais les tendances. C'est-à-dire, les États-Unis ont toujours tendance à sanctionner pour pouvoir avoir ce qu'ils veulent, mettre pression et tout. Et les États-Unis, la France, les pays européens, en tout cas les puissances occidentales, la plupart du temps, quand un pays n'est pas dans leur ligne de conduite, c'est des sanctions, c'est des menaces et tout, c'est la pression. Et je pense que c'est ce que la CEDEAO a décidé d'utiliser aussi, mais ça n'a toujours pas marché. Je pense que il faudrait que la CEDEAO aussi se reprenne et de voir un peu dans quelle mesure décider d'elle-même décider elle-même de comment faire en sorte qu'il n'y ait plus de ces coups d'État, qu'il n'y ait plus de situation qui l'amènerait à avoir des problèmes avec tel ou tel membre. Ce serait le mieux pour la CEDEAO au lieu de suivre, malheureusement c'est comme ça, la CEDEAO suit ce qui est fait par les puissances occidentales ou carrément la CEDEAO écoute plus ces puissances occidentales que ces peuples. La CEDEAO ne se comporte pas réellement comme une CEDEAO des peuples, mais plutôt une CEDEAO de dirigeants qui ont une certaine vision du monde, une certaine vision du développement qui n'est pas celle des peuples. Donc je pense que c'est ce que la CEDEAO doit faire, sinon les sanctions, les lignes dures ne marchent, les pressions, les menaces ne marchent pas. On a vu ça dans 3 pays ou 4 pays où les coups d'État ont eu lieu. Donc il va sans dire que de tout ce qui précède, de toutes les situations qu'on a vues depuis 2020, hein, depuis Mali, Burkina et maintenant le Niger, peut-être aussi la Guinée, il faut comprendre que les sanctions occidentales ne marchent pas. Il faut comprendre que les tentatives d'isoler les pays, surtout les pays du Sahel, pour qu'elles reviennent dans de meilleurs sentiments en ce qui concerne les pays occidentaux surtout, n'ont pas marché. Quand on prend le Mali et le Burkina qui ont décidé de changer de partenaire ou plutôt de multiplier les partenariats avec d'autres pays qui ne sont pas des pays occidentaux, on a vu comment la pression a été assez rude sur ces pays-là pour qu'ils renoncent. La communication autour de ces partenariats, surtout la communication négative des médias occidentaux, malheureusement, de nos confrères occidentaux. Néanmoins, je pense que il y a eu un échec total de cette tentative d'isoler ces pays-là. Et je pense que pour le Niger aussi, c'est le cas. On a tout fait. Hein. Le Niger qui dépendait pratiquement 100% de l'aide internationale, surtout occidentale, bien sûr. Et ces aides-là ont été entretenues. On a tout fait pour que le Niger ne fasse rien de lui-même sans l'aide occidentale. Malgré les sanctions, les autorités nigériennes continuent de diriger le pays. La population est assez résiliente. Malgré les difficultés, il y a des difficultés, beaucoup de difficultés liées aux sanctions. Ça fait mal, très mal au Niger. Mais je pense que aujourd'hui, les peuples africains, à travers le Niger, le Mali et le Burkina, ont compris qu'il faut avancer par soi-même pour être libre. Et je pense que c'est vrai que tout n'est pas rose, c'est difficile, mais je pense que ces peuples ont compris quand même qu'il faut faire un minimum de sacrifices pour avancer pour la liberté et pour se libérer du joug.
Et comment voyez-vous cette reconnaissance des nouvelles autorités militaires des 3 pays sahéliens sur le plan géopolitique? Est-ce une nouvelle tendance? Et comment ces événements peuvent impacter les pays sahéliens et ouest-africains?
La volonté affichée du président béninois de renouer avec le Niger, de rétablir les bonnes relations avec le Niger est une très bonne chose pour le pays déjà, pour la population béninoise et aussi pour le Niger. Et cela va faire revivre les bonnes relations qu'il y a toujours eu entre le Niger et le Bénin depuis toujours. Donc je pense que c'est une très bonne chose. Cependant, on peut toujours comprendre que cela pourrait ne pas être forcément ce que veulent d'autres pays, hein, d'autres puissances éventuellement, parce qu'en réalité, plus ces pays de la sous-région sont divisés, plus ces pays ne peuvent pas s'entraider et trouver les solutions aux problèmes de sécurité, de paix et de développement. Il faut aussi noter que la position de Patrice Talon va directement dans le même sens que la CEDEAO qui est en train de revoir sa position radicale que le président Patrice Talon a soutenue dans le temps. Faisait partie des premiers à parler de l'intervention militaire de la CEDEAO pour déloger les militaires après le coup d'État contre Mohamed Bazoum. Cependant, le fait de voir le président Patrice Talon revenir à de meilleurs sentiments et parler de renouer avec les bonnes relations et tout, c'est très bien pour les entrepreneurs béninois aussi, pour la population, parce que il faut noter que le Niger faisait passer ses marchandises par le port du Bénin et après la fermeture des frontières, il y a beaucoup de problèmes économiques tant au Niger qu'au Bénin. Donc je pense que c'est une très bonne chose déjà.
La lutte contre l'insécurité provoquée par des groupes armés illégaux est un aspect important des évolutions politiques qui ont eu lieu au Mali, au Burkina et au Niger. Tous les trois pays ont reproché à la France l'inefficacité de sa présence militaire et ont exigé le retrait des militaires français de leur sol. Ces derniers mois, les trois États sahéliens ont annoncé plusieurs succès dans la lutte contre les terroristes, dont la reprise de Kidal par les FAMA. Comment expliquer ces succès alors que les Français sont partis? Les nouvelles autorités se montrent-elles plus efficaces dans la lutte contre l'insécurité, selon vous?
Je pense qu'en parlant des erreurs de la CEDEAO, hein, qui ne fait que prendre des sanctions, il faudrait déjà que la CEDEAO aille au fond de la situation de pourquoi est-ce qu'il y a tant de coups d'État et dans la même région. Je pense que déjà, il faut se rendre à l'évidence que c'est la question sécuritaire. Quand, par exemple, au Niger, la dernière fois, les auteurs du coup d'État parlaient de la question sécuritaire, la CEDEAO suivait carrément la politique de, ou plutôt la position de certains pays puissances occidentales qui disaient que c'était c'était des arguments farfelus, c'était pas des arguments normalement utilisables pour le coup d'État, que le Niger paraissait stable, ou certains disaient même que le Niger était stable de façon sécuritaire, mais que la sécurité était maîtrisée. Mais je pense que c'est tout faux. On sait tout ce qui se passe dans ces trois pays-là. Et à chaque fois, les attaques se faisaient dans la zone dite des trois frontières, Mali, Niger, Burkina Faso. Toujours plusieurs attaques ont eu lieu là, et c'est toujours les mêmes endroits. Au-delà de là, il y a beaucoup d'attaques qui ont eu lieu au Niger, beaucoup d'attaques qui ont lieu au Niger, de toute façon. Il faut dire que, après que une certaine puissance a été chassée du Mali et du Burkina Faso, il a fallu quand même utiliser la communication pour dénigrer ce pays, pour montrer que la présence européenne, occidentale, française, américaine était nécessaire pour que le Sahel retrouve la sécurité. Mais quand on va un peu plus loin, la sécurité au Sahel, il y avait à peine quelques attaques au Sahel avant que les Européens, les Américains et tout n'arrivent et ne fassent je ne sais quoi au Sahel. Mais aujourd'hui, il y a tellement d'attaques au Sahel qu'on se demande, mais qu'est-ce qu'ils ont fait en 10 ans véritablement? Ça, c'est pour les Français et les Européens qui sont venus pratiquement se balader, parce qu'en 10 ans, c'était un échec total. Les différentes forces, Barkhane, Takuba, je ne sais pas trop, c'était carrément un échec cuisant, parce que non seulement le terrorisme a augmenté, mais le terrorisme s'est étendu vers d'autres pays, même vers les pays côtiers, comme le Bénin par exemple. Donc je pense que c'est là que la CEDEAO doit pouvoir interagir, doit pouvoir réfléchir et dire, mais écoutez, si ces coups d'État ont lieu, c'est par rapport à telle chose. Et la première des choses que ces pays ont fait, c'est de se débarrasser de cette puissance étrangère, de prendre en main la responsabilité de la défense de leur pays. C'est normal. Donc je pense que c'est la CEDEAO qui n'a pas plutôt mieux joué son rôle pour et prévenir ces coups d'État. Au lieu de sanctionner le Niger, par exemple, actuellement, la CEDEAO aurait pu se faire un bilan interne pour savoir quel est notre rôle dans tout ça. Parce que la CEDEAO est comptable de tous ces coups d'État qui se passent aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. On espère qu'elle comprendra qu'il s'agit d'un problème sérieux et se reprendrait. Après, écoutez, au Mali, par exemple, les autorités ont repris Kidal après 8 ans. 8 ans où les forces françaises refusaient quand même que l'armée malienne aille dans Kidal. Mais après le départ des forces françaises, les autorités ont repris Kidal, ont continué à mener des batailles dures contre le terrorisme. Tout n'est pas rose dans ces pays. Le Mali, le Niger, le Burkina Faso, après les prises de pouvoir. Tout n'est pas rose, c'est tout à fait normal. Mais après, il faut un minimum de sacrifices, de retenue pour pouvoir faire un pays harmonieux, de paix, de sécurité, comme l'envisage, comme l'espère le président béninois dans son discours de jeudi. Donc je pense que, même si tout n'est pas rose, il faudrait que les autorités militaires aussi sachent que il faut un minimum de démocratie. Mais la démocratie à la sahélienne, la démocratie à la malienne, la burkinabé, la nigérienne. Il faut adapter la démocratie à la gestion du pays, faire en sorte que les gens puissent se sentir libres, heureux et extrêmement confiants en l'avenir. C'est comme ça que la gouvernance, c'est comme ça qu'on peut éviter les coups d'État. J'espère que les autorités militaires vont faire diligence pour pouvoir ne pas tomber dans les mêmes problèmes, dans les mêmes tares que leurs prédécesseurs civils. Et je pense aussi que la CEDEAO aussi doit revoir ses copies, permettre aux différents pays, au-delà de l'organisation, de s'affirmer, de s'afficher, de ne pas être contraint d'écouter des partenaires unissants, mais de faire en sorte que ces pays aient quand même une diversité de partenaires. Je pense que c'est le problème aussi du Mali, de ces pays d'Aérien-là, parce qu'ils ont décidé de diversifier leur partenariat. Il y a aussi tout ça qui va en ligne de compte dans les problèmes que ces pays ont aujourd'hui. Mais je pense que tout va en s'améliorant et que la CEDEAO a compris la leçon, que les pays de la communauté internationale ont compris la leçon. Je pense qu'ils vont mettre de l'eau dans leur vin et améliorer leur coopération avec les différents pays.
C'était Modeste Dossou, analyste et chroniqueur béninois pour Spoutnik Afrique. Il est revenu sur les récentes déclarations du président béninois qui souhaite normaliser ses relations avec le Niger, ainsi que sur les tentatives ratées d'isolement de Ouagadougou, Bamako et Niamey. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, bienvenue sur Spoutnik Afrique que vous écoutez sur les ondes de Maliba FM, 99.5 FM à Bamako. Ici l'émission Zone de Contact présentée par Anthony Lefebvre. Je salue celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. Le professeur Alidou Tinto, chercheur burkinabé en parasitologie et lauréat du prix Nature's 10. Il récompense les 10 personnalités scientifiques qui ont marqué de leur empreinte l'année 2023 dans le monde. Il s'agit du seul Africain représenté dans le palmarès établi par le magazine britannique. C'est la 5e personnalité africaine lauréate de ce prix et le 2e burkinabé depuis Lassina Zerbo, qui a été reconnu en 2017 pour la surveillance des essais nucléaires. En ce qui concerne le professeur Tinto, c'est son vaccin contre le paludisme, intitulé R21 Matrix M, considéré comme sûr et efficace par l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, qui l'a fait entrer dans ce palmarès. Au micro de Spoutnik Afrique, le professeur Alidou Tinto, directeur de recherche en parasitologie, chef de l'unité de recherche clinique de Nanoro au Burkina Faso, nous a livré ses impressions.
La première question concerne bien entendu la dernière nouvelle. Vous venez d'être désigné parmi les 10 scientifiques de l'année par le magazine britannique Nature. Vous êtes le seul Africain d'ailleurs sur cette liste cette année. Qu'est-ce que vous ressentez suite à cette récompense?
Je pense que le sentiment que tout scientifique ou tout chercheur peut avoir après une telle distinction internationale à un si haut niveau, c'est un sentiment de satisfaction. Et un sentiment de satisfaction en ce sens que, en tant que chercheur, la question que vous vous posez tous les jours, c'est est-ce que ce que vous faites comme recherche impacte sur la vie de vos communautés? Est-ce que cette recherche impacte sur la vie des populations? Et de savoir que vos travaux sont reconnus au-delà du Burkina, au-delà du continent africain, ça veut dire que vous impactez d'une façon ou d'une autre sur la santé des populations. Et c'est cela qui me rend vraiment très fier pour cette nomination que j'ai eue au prix de meilleur scientifique de l'année 2023.
Merci beaucoup. Et à quel moment de votre vie avez-vous réalisé que vous vouliez vraiment devenir chercheur en médecine?
Alors, il faut dire que je suis pharmacien de formation à la base. Et lorsque j'ai commencé à faire ma thèse de pharmacie, je me suis posé plusieurs questions. Est-ce que je dois faire la pharmacie pour vendre des médicaments uniquement? Est-ce qu'on a besoin de faire 6 ans, 7 ans d'études? J'ai répondu à la question non. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour sentir que mon travail a un impact sur la population? Je me suis dit que je devais m'intéresser à une maladie qui est un problème endogène en Afrique. Et quand on prend le paludisme ou malaria, vous vous rendrez compte que c'est un problème beaucoup plus africain qu'occidental. Et donc, tout de suite, je me suis dit, est-ce que nous ne sommes pas, nous les Africains, ceux-là qui doivent s'approprier la recherche sur cette maladie pour proposer des solutions? Parce que le paludisme existe depuis des siècles dans le monde, et on se rend compte qu'en Europe, le paludisme a disparu, mais en Afrique, le paludisme persiste et continue de faire beaucoup de victimes. C'est cela qui m'a motivé à me dire, en tant qu'Africain, j'ai le devoir de m'engager pour mener des recherches sur le paludisme afin d'aider mon continent à résoudre ce problème qui a un impact très négatif sur le développement économique de mon continent. Voilà un peu ce qui m'a motivé vraiment à m'orienter vers la recherche et plus précisément vers la recherche sur le paludisme.
Et juste une petite question de précision, vous-même, vous personnellement, avez-vous été affecté par le paludisme?
Ouais, comme tout Africain vivant en Afrique, en zone d'anémie paludisme, on a tous expérimenté au moins une fois dans notre vie et même plus d'une fois le paludisme. Et plus récemment, très récemment, ma petite fille de 6 ans, qui est une jumelle, a été hospitalisée pendant 4 jours à cause d'une crise de paludisme. Et c'était assez grave parce que elle avait une forte parasitémie d'environ 20 000 parasites. Elle avait beaucoup de fièvre. Elle avait beaucoup de douleurs. Elle n'arrivait pas à manger et on était obligé de l'hospitaliser pour lui mettre des perfusions parce qu'elle vomissait en plus. Donc, c'est quelque chose que j'ai vu au quotidien, et comme tous les autres Africains. C'est ce qui fait d'ailleurs que le paludisme constitue un problème pour toutes les familles en Afrique et c'est ce qui me réjouit lorsque je vois que le travail que je fais pour apporter des solutions pour la prise en charge de cette maladie sont reconnus à un si haut niveau par un magazine comme Nature. Il faut dire que lorsque j'ai commencé mes travaux de recherche sur le paludisme, je me suis orienté initialement vers la résistance du parasite aux médicaments. Parce que lorsque nous étions tout petits, il y avait un médicament qui était utilisé de façon très efficace pour traiter le paludisme qu'on appelait la chloroquine. Mais malheureusement, à un moment donné, ce médicament ne marchait plus. Ce médicament ne marchait plus parce que tout simplement, le parasite a commencé à développer une résistance. Donc, initialement, je me suis intéressé à cette question pour comprendre comment le parasite développait des mécanismes pour résister à ce médicament. Alors, cela m'a valu non seulement un prix international qui était réservé aux scientifiques de moins de 35 ans dans les années 2002. Et cela m'a également valu la proposition d'aller travailler aux États-Unis parce que j'avais fait des travaux qui étaient très intéressants et qui intéressaient beaucoup d'universités. Mais plus tard, je me suis dit, mais écoute, il y a la résistance, mais est-ce qu'il ne faut pas proposer autre chose? C'est là que j'ai commencé à m'intéresser au développement des médicaments en collaborant avec les laboratoires pharmaceutiques pour développer des médicaments. Et après, je me suis dit, mais toutes les grandes endémies du monde ont été vaincues grâce à la vaccination. Est-ce qu'il n'est pas temps que je m'intéresse à cette question de la vaccination qui va permettre de prévenir la maladie? C'est parce que si on arrive à éviter que la maladie ne survienne, on va éviter les décès, etc.
Vous avez dit que vous avez été invité à travailler aux États-Unis, mais vous avez décidé de rester au Burkina. Vous n'avez jamais regretté cette décision?
Je pense que j'ai eu raison d'avoir refusé. Je vous explique pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, quand on prend les États-Unis, il y a suffisamment de chercheurs qui ont les mêmes qualités que moi. Peut-être beaucoup sont aussi bien et même à un niveau plus élevé. Moi, en allant aux États-Unis en tant qu'Africain, je ne peux pas avoir un impact visible aux États-Unis. Mais en Afrique, ce qui nous manque, c'est pas qu'on n'a pas de gens de qualité. On a des gens de qualité, mais on n'a pas la masse critique. Ça veut dire le nombre de personnes de qualité à un grand nombre pour impacter sur le développement, aussi bien dans tous les domaines. Alors, je me suis dit, j'étais beaucoup plus utile en Afrique qu'aux États-Unis. Et c'est ce qui m'a motivé à revenir. Et l'histoire montre, après 10 ans que j'ai créé ce centre en 2009, que j'ai eu raison de revenir en Afrique. Parce que si j'étais resté aux États-Unis, je ne suis pas certain que j'allais avoir de l'espace et des opportunités, les mêmes opportunités que j'ai eues en Afrique, pour figurer aujourd'hui dans le top 10 des chercheurs, des scientifiques du monde en 2023.
Pour assurer sa croissance, votre pays et toute l'Afrique ont certainement besoin de la science. Selon vous, que faut-il pour stimuler le développement de la science au Burkina Faso et sur le continent en général?
Alors, moi, il est très clair, pour que l'Afrique puisse rattraper son retard en termes d'innovation et de technologie, il faudra investir beaucoup de ressources dans la formation. Pas seulement la formation, mais la formation de qualité. Parce que comme je le disais tantôt, ce qui nous manque en Afrique, on n'a pas encore une masse critique de chercheurs, de scientifiques formés à un très bon niveau, de très bonne qualité, qui puissent être bilingues, parler à la fois l'anglais, le français, parce qu'il faut pouvoir être compétitif.
Merci beaucoup. Ce n'est pas un secret pour personne, je peux dire dans le monde entier, que de nombreux scientifiques talentueux africains sont parfois débauchés par les pays occidentaux et les sociétés transnationales. Ça veut dire que simplement, ils ne restent pas en Afrique, ils partent et ils travaillent ailleurs. Comment, selon vous, les États africains pourraient-ils résoudre ce problème de fuite des cerveaux et s'assurer quand même que les scientifiques africains restent dans leur pays d'origine et travaillent au profit de leurs États?
Alors, je pense que ce que vous dites est quelque chose de très important et c'est également une réalité. La preuve, c'est moi-même. Quand j'ai fini ma thèse, j'ai eu deux propositions pour travailler en Europe et aux États-Unis. Ça prouve que lorsque il y a des hommes de bonne qualité, on a besoin de les attirer ailleurs. Et je peux comprendre, parce que tous les pays, tous les continents veulent les meilleurs. Donc, il appartient aux dirigeants africains, aux gouvernements africains, aux États africains, de prendre conscience que s'ils ne créent pas les conditions pour permettre à leurs chercheurs de s'exprimer, ils vont aller ailleurs. Et moi, je comprends que ces chercheurs aillent ailleurs lorsqu'ils ne trouvent pas les moyens d'expression sur leur continent. Alors, je vous prends un exemple. Lorsque les Américains m'ont contacté pour me convaincre d'aller aux États-Unis, ils m'ont dit ceci. Monsieur Tinto, lorsqu'on regarde vos capacités, on regarde vos compétences, l'Afrique ne pourra pas utiliser 10% de vos capacités, nous sommes certains. Parce que vous ne disposerez pas des conditions, vous ne disposerez pas de la plateforme pour pouvoir vous exprimer pleinement. Alors que ici, nous, aux États-Unis, nous allons vous donner tous les moyens pour que vous puissiez exprimer votre potentiel. Je dis, cela est vrai, mais si on ne change pas le cours de l'histoire, ça va continuer. Et je pense que le fait de revenir en Afrique, pour moi, c'est aussi ce message que je voulais envoyer aux jeunes Africains. Et leur dire que vous n'avez pas absolument besoin de partir en Europe pour exprimer vos talents. Si vous revenez en Afrique, vous êtes capable également de compétir avec les chercheurs de ce monde. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ma consécration parmi les 10 meilleurs scientifiques en tant que seul Africain dans le monde est une interpellation pour la génération, la nouvelle génération de l'Afrique, des jeunes Africains, pour leur dire on peut bien rester en Afrique et figurer parmi les meilleurs du monde. Et c'est ce message que je veux également que nos politiques et toute la jeunesse africaine retiennent de la consécration que j'ai eue par Nietzsche.
Merci beaucoup, professeur. Et toute dernière question pour cette fascinante interview d'aujourd'hui. De nombreux diplômés d'universités soviétiques et russes, maintenant, travaillent en Afrique. Comment évaluez-vous la coopération entre nos pays, je veux dire le Burkina Faso et la Russie, dans votre domaine de compétences et dans d'autres domaines scientifiques? Et voyez-vous un potentiel de développement dans cette question?
Alors, je dirais oui. Je me rappelle que quand j'étais plus jeune, j'ai eu des enseignements par des experts russes. Par exemple, mon professeur de chimie était un russe, mon professeur de physique était un russe. Mais c'était à un moment où le Burkina politiquement entretenait de très bons rapports avec la Russie sous le régime de Thomas Sankara qui était la révolution. Mais après, je pense que cette coopération s'est malheureusement effritée et pour ne plus exister. Ce qui est dommage parce que lorsqu'on regarde la Russie aujourd'hui, quoi qu'on dise, c'est l'une des plus grandes puissances de ce monde. Et ça veut dire que les scientifiques burkinabés ont beaucoup attiré de la science russe. Et quand on repart dans l'histoire, nous avons beaucoup de scientifiques avec qui je travaille aujourd'hui qui ont été formés en Russie, que ce soit dans le domaine de la médecine, de la chimie, dans le domaine vétérinaire. Alors, c'est vrai que avec la nouvelle dynamique qui est en train de se construire depuis bientôt un an, j'espère que cette dynamique qu'on a connue quand on était beaucoup plus jeune, avec le soutien des experts russes, va permettre à l'Afrique progressivement d'arriver à une souveraineté. Parce que notre objectif, ce n'est pas d'avoir une assistance permanente des scientifiques occidentaux, y compris la Russie, mais c'est de faire en sorte qu'un transfert de technologies soit fait dans ces pays qui sont déjà en avance sur le Burkina, de sorte à ce que progressivement le Burkina puisse, dans 10 ans, dans 15 ans, avoir une autonomie et coopérer de façon égale, gagnant-gagnant avec justement ces scientifiques qui viennent de la Russie ou d'ailleurs dans le monde, de telle sorte à ce que l'Afrique puisse tirer le meilleur profit également de cette coopération scientifique.
C'était le professeur Alidou Tinto, directeur de recherche en parasitologie, chef de l'unité de recherche clinique de Nanoro au Burkina Faso pour Sputnik Afrique. Il nous a livré ses impressions suite à son entrée dans le palmarès des 10 personnalités mondiales de l'année 2023 dans le domaine scientifique, décerné par un magazine britannique. Mesdames, messieurs, Spoutnik Afrique rend l'antenne à Maliba FM. Moi, Anthony Lefebvre, je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain numéro de mon émission. Je vous invite à consulter notre site internet et à vous abonner à notre page Telegram Spoutnik Afrique officielle pour suivre l'actualité africaine et internationale en temps réel. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.
Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique.